Je m'appelle Lila et j'aimerais parler d'un endroit unique pour moi, à savoir Séoul, en Corée du Sud. C'est une ville à l'histoire très spéciale, une ville en constante ébullition et évolution. J'y ai vécu juste après avoir fini le lycée, avec ma sœur jumelle Maud, en 2012. Et je me dis souvent que c'est une ville où une part de mon cœur est restée. En 2014, j'ai aussi réalisé un projet de documentaire où j'ai demandé aux gens aux quatre coins de la ville quelle était pour eux l'identité coréenne. Séoul, c'est une ville à la fois brute et douce, une ville qui vous rentre un peu dans la peau.
France Inter, chacun sa route.
Aujourd'hui, c'est un voyage fait d'aller-retour, d'incompréhension, d'amour, bien sûr. C'est un voyage littéraire, un jeu avec la langue. C'est dire, dire à haute voix, c'est mélanger de soi et des autres. Notre invité a écrit 12 romans, traduits dans plusieurs langues. Il est l'un des plus célèbres romanciers marocains contemporains. En 2010, il obtient le prix de Flore avec Le Jour du Roi. L'an dernier, il publie La Vilante, prix du roman gay. Il est en effet l'un des premiers auteurs maghrébins à parler publiquement de son homosexualité dans ses livres comme dans les médias. Il va, pour démarrer cette conversation, nous lire les paroles d'une chanson brésilienne.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
Laisse-moi aller, j'ai besoin de marcher. J'y vais pour chercher, rire de ne pas pleurer. Laisse-moi aller, j'ai besoin de marcher. J'y vais pour chercher, rire, rire de ne pas pleurer. Je veux regarder le lever du soleil, je veux voir les eaux des rivières, voir les eaux des fleuves couler. Je veux naître, je veux vivre, naître, vivre. Si quelqu'un me demande, dis-lui que je vais revenir, après que je me retrouve. Je veux regarder le lever du soleil, je veux voir les eaux des rivières et je veux entendre les oiseaux chanter. Je veux naître, je veux vivre, naître, vivre, laisse-moi aller, j'ai besoin de marcher. J'y vais pour chercher, rire de ne pas pleurer.
Bonjour Abdel Attaya.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi cet extrait ?
Parce que depuis à peu près 2 ans, le Brésil est entré dans ma vie, il m'a complètement bouleversé. Je ne m'y attendais absolument pas, je ne rêvais pas du tout du Brésil. Un jour, m'a invité, et dès que l'avion s'était posé sur la terre du Brésil, c'est comme s'il y avait déjà un autre Abdellah qui vivait là-bas.
C'est vrai ?
Oui, à ce point-là.
Et c'est un voyage que vous avez fait pour vous ou vous y êtes allé pour quelle raison ?
Non, c'était pour une raison professionnelle. Un de mes livres était traduit là-bas, il m'avait invité pour le présenter. Et je vous le jure, dès l'arrivée de l'avion, dès que l'avion s'était posé sur la terre, le sol de l'aéroport de Rio de Janeiro, et déjà les gens qui étaient là, il y avait une forme de rencontre comme ça, mystérieuse, magique, entre... comment le monde il est fait là-bas et comment moi, très certainement comment je suis fait, il y avait comme ça une rencontre, il y a une rencontre entre cette terre et moi. Et puis il y a aussi, je pense que tout ce qu'on dit sur le Brésil ici en Occident et peut-être même au Maroc, en fait c'est rempli de clichés. Le Brésil est beaucoup plus riche et beaucoup plus fascinant que ce qu'on dit dans... que l'image publicitaire qu'on en donne.
Et vous y êtes retourné depuis ?
Oui, à peu près 8 mois plus tard, on m'a de nouveau invité, donc je suis allé à...
C'est pratique.
Oui, c'est pratique. Je suis allé dans d'autres villes, par exemple Fortaleza. Et c'est un nom, par exemple, qui ne me traversait même pas l'esprit auparavant, et dès que je me suis retrouvé dans cette ville...
C'est une chanson brésilienne de Cartola, je ne l'ai pas précisé, et le titre en français, si on le traduit, c'est « Besoin de me retrouver ». Vous, le voyage, Abdel Attaya, c'est aussi pour vous un besoin de vous retrouver ?
Non, pas du tout.
Non.
Déjà, je n'éprouve pas le besoin de voyager pour découvrir ou bien pour le tourisme. J'ai vécu dans un monde où on était une famille très nombreuse et très pauvre, donc il n'y avait même pas la possibilité, l'idée même d'aller ailleurs. J'étais à Rabat Salé, l'idée d'aller même par exemple à Casablanca ne traversait même pas l'esprit, alors qu'il y a à peine 100 kilomètres entre les deux villes. Donc je n'ai pas ce besoin en moi.
Et c'est un besoin qui n'est jamais arrivé après?
Non,
alors
même
que vous
aujourd'hui.
Avez changé de mode de vie, oui, depuis votre enfance.
Oui, même depuis que je vis à Paris. Alors je sais, c'est une des choses par exemple qui me choquait, qui me surprenait, me choquait un peu quand je suis arrivé en France, c'est que tout le monde était obsédé par l'idée des vacances, quand est-ce qu'on va partir, le week-end, les vacances de Noël, alors qu'on est encore pendant les vacances de Pâques. Toute cette préparation. Moi, je pense que ma construction intérieure, il n'y a pas cette idée d'aller me retrouver ailleurs. En revanche, la chanson, puisqu'elle parle de en fait, je l'ai choisi pour, non, au-delà de c'est pour sa simplicité. Il y a quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement profond, et qu'on entend déjà dans la musique de Cartola, et dans les mots, puisque c'est lui-même qui a écrit ces mots. Je l'ai choisi pour cette raison. Ouais. Ce besoin de marcher. Simplement marcher, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui depuis le confinement et le coronavirus et tout ça. Et ce besoin de marcher.
Et quand vous habitiez Abdel Ataïa à Salé, donc Salé c'est une énorme ville qui est juste à côté de Rabat. Rabat c'est la capitale du Maroc. C'est une très grande ville qui est beaucoup plus pauvre en l'occurrence que Rabat. Quand vous étiez plus jeune, vous pensiez à marcher?
Ah mais je ne faisais que ça.
Ouais.
La vie, je suis né en 1973, hein, donc juste c'est une précision importante parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de chaîne de télé, si ce n'est une seule. Donc la vie, c'était quand tous les jours, on ne pouvait pas rester chez nous. La mère nous chassait, nous disait allez passer la journée dehors et revenez. Donc je passais mes journées à errer pieds nus, à voler les fruits dans les villes là des riches et à chasser des oiseaux et à commettre quelques petits crimes avec ma bande de petits voleurs de l'époque. Donc voilà cette idée de marcher, de que passer sa journée, ses journées, sa vie, ses années, et que le soleil se lève, bah, il faut sortir marcher. Aujourd'hui, je ne le fais plus.
Et vous rêviez d'ailleurs ou vous étiez déjà finalement ailleurs par toutes ces marches, par ce quotidien différent?
Franchement, je ne rêvais pas d'ailleurs parce que, voilà, je le précise, c'est une famille pauvre, le ouais. Monde, les limites de ce monde, c'est-à-dire que je ne connaissais rien d'autre, peut-être même l'idée de Rabat, et qui pourtant c'est si proche de la ville de Salé, et me semblait le summum de la bourgeoisie, de la richesse, et de ces gens qui vont nous mépriser, donc il fallait surtout pas aller chez les gens de Rabat, puisqu'ils ne feront que nous mépriser, donc autant rester chez soi, tourner, et voilà, rencontrer l'amour, rencontrer la violence, et tout ça, donc il n'y avait pas ce désir en moi de cette idée, à l'époque, hein, quand j'étais enfant, de cette idée que j'irais un jour en France, ou d'ailleurs je savais même pas ce que ça veut dire la France, il y avait bien des gens qui parlaient français quelque part, mais à la télévision. Mais il me semblait tellement arrogant et tellement loin de moi, loin de nous, loin de la pauvreté dans laquelle la pauvreté et la survie dans laquelle nous vivions, que l'idée de rêver d'aller chez eux là me paraissait la trahison même.
Vous étiez 9 enfants?
Oui.
Et vous habitiez dans un 3 pièces?
Oui.
Dans une manière de répartir les pièces très patriarcale? Je pense qu'on peut le dire, puisqu'il y avait une pièce pour votre père, une pièce pour votre plus grand frère, et puis une pièce pour tous les autres. Cette manière de grandir, est-ce que ça a changé quelque chose, vous, même ne serait-ce que dans l'espace que vous aviez pour vous, qui était donc extrêmement restreint? Est-ce que ça dit encore aujourd'hui, des années plus tard, quelque chose de vous?
En fait, ce qui est étrange, c'est qu'on passe une bonne partie de sa vie à vouloir fuir cette trop grande promiscuité. Tous ces corps qui sont entassés les uns sur les autres, les uns à côté des autres. Et arrivé à l'âge que j'ai aujourd'hui, et d'ailleurs ça se voit dans tous mes livres, j'ai une nostalgie invraisemblable pour cette chambre de où j'ai passé l'essentiel de ma vie. Donc je rêve, par exemple, aujourd'hui, que mes journées passent au ras du sol. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, j'ai des chaises, j'ai des fauteuils, mais quand j'étais petit, on passait nos vies par terre, sur le sol, sur le zellige, et on dormait par terre. Cette idée que le corps qui touche la terre, qui touche le sol, qui touche... dans cette proximité-là, c'est quelque chose qui aujourd'hui me manque terriblement. Alors je sais qu'il ne faut pas trop être nostalgique, mais cette chose précise mon corps qui vit proche du sol, c'est-à-dire mes fesses sur le sol, mon corps qui s'allonge sur le sol, à côté des autres qui sont aussi sur le sol, mes sœurs, ma mère qui crie, mes sœurs qui rêvent beaucoup plus grand que moi, c'est quelque chose qui me, franchement aujourd'hui, me manque beaucoup. Et je crois que ça se voit dans tout ce que...
Dans tous vos écrits.
Mais c'est un paradoxe, parce que en même temps, on passe l'essentiel de sa vie à vouloir fuir ce premier monde. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce premier monde, il est totalement dans mon sang.
Et que vous vivez ce paradoxe au quotidien. Comment vous faites, par exemple, pour retrouver cette terre où vous ne la retrouvez pas?
Ah, je pense que c'est ça la tragédie de la vie adulte, c'est que on est condamné à vivre trop dans sa tête et à repasser les choses d'une manière trop intellectuelle, trop pensée, trop en dehors d'un premier contact direct avec le monde. Je ne dis pas que ma vie, mon enfance et mon adolescence au Maroc, dans cette famille, ont été complètement heureuses, hein. C'est pas ce que je dis. Il y avait des choses extrêmement violentes, extrêmement tragiques, mais c'est qu'aujourd'hui, même cette violence, c'est-à-dire comment le monde était à ce moment-là, comment il était dans ce lieu-là précisément et comment il est entré en moi, j'éprouve aujourd'hui de la nostalgie pour ça, pour ces structures-là. Et aujourd'hui, je vis à Paris, je vis dans un petit appartement, je vis... Comme tous les Parisiens, je suis devenu peut-être intellectuel puisque j'ai des préoccupations intellectuelles, je prépare des livres, je les structure... Mais tout cela c'est peut-être ça qui est étrange, tout ça n'est pas complètement satisfaisant.
Et en même temps, j'ai lu, comme dans l'un de vos livres d'ailleurs, La Vie Lente, que vous n'avez pas beaucoup de meubles, en l'occurrence chez vous, que c'est assez vide. Donc vous avez quand même gardé un goût pour, comment dire, contre le superflu.
Je pense que c'est même pas pensé de ma part. C'est quelque chose comme ça.
C'est là.
Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense toujours pas à cette idée d'acheter une maison, d'acheter des meubles, d'aller dans.
Mais un jour, parce que vous vous entendez assez mal avec votre voisine, les policiers viennent chez vous en France et découvrent que votre appartement est assez vide. Et ça leur fait un petit choc. Eux, ils ont l'impression que du coup, vous cachez quelque chose.
Ça, c'est ce qui arrive aux héros du roman, et ça m'est arrivé aussi à moi, puisque ça part d'une situation très vraie, qui s'est passée réellement dans la vie, quand j'habitais la rue de Turenne, et j'avais réussi à trouver cet appartement de 45 mètres carrés. Donc, rue de Turenne, c'est quand même une consécration pour la vie d'un Parisien comme moi, d'un Marocain vivant à Paris. Sauf qu'au-dessus de chez moi, il y avait cette femme française, blanche, qui avait plus de 80 ans, qui, elle, vivait dans un 14 mètres carrés, au dernier étage, et elle avait pas les toilettes chez elle. Les toilettes, c'était sur le palier. Et donc, cette femme, dans cette cage de 14 mètres carrés, ne pouvait pas faire autrement que de bouger, de marcher, parce que ne pas bouger, ne pas marcher, pour quelqu'un qui a 80 ans, c'est tout simplement mourir. Donc elle bougeait tout le temps. Sauf que moi, en dessous de chez elle, j'entendais ses pas. Et à force de les entendre, à force de ne pas pouvoir dormir, à force de lui parler, elle qui ne veut pas écouter, parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de marcher. Et les rapports entre elle et moi sont devenus tellement intenses, tellement pas bien. Mais en même temps, il y avait un peu d'amour entre elle et moi. Et puis un jour, la dispute est partie très très loin. Et elle m'a dit, mais vous savez, j'ai l'hypertension, j'ai mal au cœur, je vais mourir. Et moi, j'ai osé lui jeter à la figure cette phrase terrifiante et invraisemblable. Mais vous savez, il y a assez de cimetières à Paris, madame. Elle a assez mal pris, elle a appelé la police, est venue, et effectivement, c'est là qu'ils ont découvert que chez moi, rue de Turenne, il n'y avait pas de meubles, et c'était devenu suspect. Je voyais que c'était de ce qu'ils découvraient dans cet appartement, l'absence de meubles, c'était suspect pour quelqu'un comme moi, marocain, arabe, en France, tout ça.
Vous voyez que la promiscuité... Ça dépend quand même des moments. Je ne sais pas si on peut avoir la solitude de toute promiscuité. On va rester encore un peu au Maroc avec vous, Abdelataya, avant d'en partir. Indy Zara chante en arabe, en français, en amazir et en anglais. Imik Simik, vous écoutez France Inter.
حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو إيميك سيميك حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain
Zara, sur France Inter. Vous écoutez Chacun sa route qui, jusqu'à 15h, suit le chemin du romancier Abdellah Taïa. Abdellah, vous êtes arrivé en France d'abord à Genève. Vous avez fait une incursion, une incartade par la Suisse avant d'arriver vers la France. Vous aviez alors 25 ans. Vous nous disiez tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, je ne rêvais pas du tout de partir, de Salé, de partir de Rabat. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 10, 15 ans plus tard, eh bien, vous êtes dans un avion et vous arrivez en Europe ?
Tout d'abord, je pense qu'il y avait mon grand frère qui, lui, avait les livres et il y avait cette chambre dans laquelle ma mère l'avait installée comme un roi silencieux qui régnait sur nous. Et moi, je crois que j'étais très amoureux de ce grand frère. Et je voulais être exactement comme lui. Et puis, il y a surtout, il faut dire, la découverte au-delà de mon grand frère que j'étais réellement homosexuel et que je n'étais pas le seul à l'avoir découvert, puisqu'il y avait tout, j'avais l'impression que le monde entier, c'est-à-dire ce petit monde dans lequel je vivais, savait cette chose et qu'il allait l'utiliser contre moi. Et d'ailleurs, le monde ne s'est pas du tout gêné pour l'utiliser contre moi, c'est-à-dire en faisant des choses très terrifiantes, voilà, des insultes, des viols et tout ça. Et j'ai compris que la construction politique du Maroc, c'est comme si elle avait besoin de donner comme ça des individus en pâturage pour que la société puisse ne pas complètement s'exploser. Pour le dire autrement, c'est-à-dire pour juguler, si je peux dire, la frustration.
Des insultes, des viols, on n'est pas exactement quand même sur le même niveau.
Alors, je sais qu'aujourd'hui, ces mots ils ont un poids énorme, mais moi, tout ça, je parle de début des années 80. C'est-à-dire que je ne pouvais pas penser à moi comme quelqu'un qui a le droit d'aller dire « Regardez ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont violé, ils m'insultent, ils sont en train de faire ça. » Je ne pouvais même pas le dire à mes parents puisqu'il y avait toute cette interdiction suprême qui était là dans l'air, qui concernait l'homosexualité. Donc il fallait que je me débrouille tout seul, aussi bien avec cette chose que je découvre qui s'appelle l'homosexualité et que moi-même, à l'époque, je ne nommais pas comme ça. Puisque voilà, donc cette désignation, elle est quand même assez récente. Mais en tout cas, on l'appelle l'homosexualité. Comment il fallait que je me débrouille pour déjà accepter ça entre moi et moi? Et puis, comment il fallait que je gère tous ces regards, ces désirs? Parce que tous ces gens-là, ces hommes-là, c'était ça qui était très étrange. En même temps, ils vous rejettent, ils vous violent, ils vous font des choses terrifiantes, mais en même temps, ils ont du désir pour vous. Parce que dès que vous passez, n'importe qui pouvait se permettre de prendre votre main, votre bras, vous faire baisser le pantalon et faire ce qu'il veut. Et après, quand vous le croisez, il vous insulte, etc. C'est-à-dire que j'ai compris que même ces hommes-là, étaient eux-mêmes piégés, étaient eux-mêmes dans une structure qui les dépassait, puisqu'ils n'avaient pas eux-mêmes la possibilité de s'exprimer sexuellement en toute liberté. Mais tout cela, donc c'est peut-être ça le plus difficile, c'est que tout cela se passait dans la tête et le corps d'un gamin qui a 12 ans, 13 ans. C'est-à-dire qu'il fallait que je me réconcilie avec moi-même et que je devienne un grand comédien, parce que j'ai compris qu'il fallait que je change d'attitude, que je me maîtrise, si je peux dire, devant ce monde-là, que je ne sois plus cette petite chose efféminée, folle, comme ils me disaient eux, cette Layla, parce que c'est comme ça qu'ils m'appelaient, Layla, et que, passant devant eux, qu'ils n'aient même pas ces désirs de me toucher. Voilà, il fallait presque inventer un autre Abdellah, et devenir un très très grand comédien, et je pense que j'ai excellé dans ce rôle.
C'est vrai, vous avez donné le change. Du jour au lendemain, vous vous êtes dit... Ok, c'est plus possible, j'arrête. J'arrête d'être moi.
Je pense que ça ne se passe pas aussi clairement que vous venez de le dire. C'est comme tout un processus.
Mais il y a eu une urgence.
Une urgence, puisque ça, je grandissais, donc mon corps changeait. Et eux, ils continuaient de me faire toute...
Ouais.
Mais le problème dans tout ça, c'est que tous ces gens-là, moi, je les aimais. C'est-à-dire, moi, je ne détestais pas le Maroc, je ne détestais pas ma mère, je ne détestais pas mes sœurs. Mon grand frère était un héros pour moi. Mes sœurs, c'était des femmes qui me paraissaient la liberté même, puisque je vivais avec elle, je dormais à côté d'elle, et j'avais accès à tout ce qui se passait en elle, leurs rêves, leurs transgressions, leurs mensonges, comment elles se débrouillaient pour que la société ne les attrape pas. Donc moi, je savais ce qu'elles étaient, ce qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes. J'étais convaincu qu'ils n'étaient pas des gens méchants. Mais le problème, c'est cette compréhension de ce qu'ils sont. Quand mon tour à moi est venu pour qu'ils me comprennent, ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est comment vous acceptez que des gens que vous aimez vont participer eux aussi à votre
malheur,
à votre chute. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que de commencer à penser à un ailleurs. Mais cet ailleurs n'était pas la France, parce que encore une fois, la France ne représentait rien pour moi. C'était seulement parfois des gens qui passaient à la télévision et qui se mettaient à parler cette chose, le français, que je ne comprenais pas. Tout à l'heure, je vous disais que la vie, quand j'étais petit garçon, c'était on se réveillait, la mère disait mais allez sortez, voilà, passez la journée ailleurs, vous allez faire ce que vous voulez.
C'est trop petit aussi.
Allez marcher. Et je pense cette idée-là qui tout d'un coup est revenue vers l'âge de 13-14 ans. Il fallait que j'aille marcher ailleurs, là où je ne pouvais pas rencontrer des gens qui me connaissent et qui peuvent se permettre de me faire des choses en toute impunité, des choses terrifiantes en toute impunité. Donc il fallait que j'aille ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à traverser le fleuve Bourg-et-Grès qui sépare la ville de Salah pour aller à Rabat. Le problème, c'est qu'à Rabat, c'était trop bourgeois et qu'il y avait des gens trop méprisants et qui, regardant un pauvre comme moi, déjà dans leurs yeux, il y avait un autre rejet. Et en plus, ils s'exprimaient en français. Voilà, donc c'est pour certains d'entre eux. C'est ça la colonisation française au Maroc. Les Français sont partis, mais ils ont laissé cette chose, le français, que les bourgeois et les puissants marocains ont utilisé pour détruire et soumettre les autres pauvres. Mais moi, j'étais un pauvre.
Et vous vous dites justement, je vais me servir de cette langue, et vous commencez à écrire votre journal intime en français pour justement vous servir de cette langue qui vous violente.
Je me suis dit, puisque ce sont des ennemis visiblement, ces gens de Rabat, et ce sont des bourgeois, et ils ont l'air tellement importants avec leurs costumes, leur façon d'être, qui n'avaient rien à voir avec la manière d'être à Salé. Je me suis dit, ils étaient des ennemis, mais je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Et je vais commencer à étudier c'est quoi ce pouvoir qu'ils ont, comment ça se passe cette histoire de pouvoir. Et j'ai compris qu'il y avait un truc quelque part dans cette façon d'utiliser le français, et que pour quelqu'un qui connaît, qui maîtrise la langue française dans un pays comme le Maroc, il a un certain avenir. Donc voilà, c'était pas une histoire d'émancipation, c'était pas une histoire de libération complète, c'était une histoire, c'est qu'est-ce qu'il a ce pouvoir comme source de puissance, et je vais aller là et je vais l'apprendre, cette source de puissance.
Et vous allez écrire, vous allez donc partir vers l'Europe, Abdel Ataya, et vous allez à un moment, pas mal d'années plus tard, faire un coming out public. C'est un jour, ça arrive, vous êtes avec une journaliste, vous n'avez pas prémédité que vous alliez en parler avec elle à ce moment-là, mais elle vous met en confiance, vous êtes bien, vous vous dites, c'est maintenant, maintenant je vais le dire. Vous savez que, évidemment, les conséquences vont être assez, comment dire, compliquées. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque vous savez que vous le dites dans un pays où l'homosexualité est passible d'emprisonnement, je ne dis pas n'importe quoi, et vous le dites pourtant, vous prenez ce rôle, et je voulais vous faire écouter le message d'un auditeur de Chacun sa route, qui a su que vous veniez, Abdel Ataya, et qui vous a laissé ce message, il s'appelle Hamza.
Je suis Hamza, j'ai 21 ans et je voudrais juste prendre le temps de remercier Abdullah Taya. Je me souviens d'avoir tenu la vie lente dans mes mains et d'avoir vu l'armée du salut et de m'être dit waouh, enfin quelqu'un qui comprend, enfin quelqu'un qui sait retranscrire ce que je ressens. Et pour la plupart des personnes qui se sentent queer en Afrique du Nord, bah, quelque part on s'est enfin senti représenté d'une façon ou d'une autre. Et pour ça, je ne pourrai jamais le remercier assez d'avoir justement supprimé les obstacles de ma pensée qui me font dire que je ne peux pas écrire, que je ne peux pas créer, que je ne peux pas exister dans l'art en étant gay marocain. Et juste pour ça, j'aimerais le remercier un million de fois.
Hamza, si tu m'entends, c'est moi qui te remercie de tout mon cœur, parce que j'imagine que Tu étais tout petit quand moi j'ai fait ce Camino, c'était en 2006, tu devais avoir peut-être 6 ans ou 7 ans.
Alors il faut faire un calcul mental, il dit qu'il a 21 ans aujourd'hui.
Donc il avait je crois 7 ans, donc pour dire la vérité, je crois quand cette journaliste de telle qu'elle m'a posé la question, franchement je n'étais pas préparé à ce moment-là pour dire pour faire cette déflagration là.
Mais on n'est jamais préparé à une telle déflagration parce que pour vous ça a été d'une violence folle derrière.
Mais en tout cas, je n'avais pas d'autre choix que de répondre honnêtement à sa question parce que je ne pouvais pas écrire des choses dans les livres. Et une fois que la journaliste veut en parler d'une manière honnête, moi je lui dis « Ah non, non, la littérature c'est une chose et la vie c'est autre chose. » Voilà, c'est-à-dire moi-même devenir mon propre bourreau et participer à la censure, à la violence contre les homosexuels et toute la communauté LGBTQ. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, elle pose cette question, je ne sais plus où je suis, on est à Casablanca, mais j'ai l'impression que tous les services de secret du Maroc sont là autour de nous et qu'ils vont m'arrêter une fois que j'aurai répondu à cette question. Et pourtant, le courage est venu, j'ai répondu, je lui ai dit oui, j'ai expliqué. Mais ce n'est pas un courage qui dure, c'est un courage d'un moment.
C'est maintenant, vous vous lancez finalement, vous jetez là pour le coup de l'autre côté de la falaise et vous voyez où ça vous emmène.
C'était pas une stratégie de ma part à laquelle j'avais longtemps réfléchi et que je me disais voilà, je vais aller aux médias et que je vais parler de ça, c'est ce qui va me faire connaître parce que...
Oui, je sais que ça vous a été reproché derrière.
C'est... Le problème, c'est qu'une fois que cet article a été publié en janvier 2006, tout le scandale que ça a été au Maroc, j'ai compris que je n'étais qu'au tout début d'une explication. Il fallait que je devienne le professeur d'un pays qui s'appelle le Maroc pour leur expliquer l'homosexualité, les empêcher d'utiliser des mots qui sont contre les homosexuels, qui les criminalisent, qui les insultent. Par exemple, jusqu'à, je crois, 2005-2006, pour dire homosexuel, ils utilisaient l'expression contre nature encore, pour dire, décrire les homosexuels. Il fallait que je devienne un troisième Abdellah hyper bien préparé là. À partir, je veux dire, du moment où le scandale a eu lieu, et que je prépare des arguments pour. Mais c'était à la fois très important de le faire pour moi, pour les gens comme moi, mais franchement, c'était très dur. Parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression, j'avais en face de moi des gens intelligents, des gens éduqués qui se présentent comme tels. Mais même chez ces gens-là qui sont censés comprendre. C'est de comprendre la situation des homosexuels, mais aussi comprendre le Maroc, comment la sexualité est gérée par le pouvoir au Maroc. Même à ces personnes-là, il fallait faire la leçon.
Le romancier Abdellah Taïa est notre invité jusqu'à 15h. Vous écoutez chacun sa route. Une route qui prend un virage blues avec le groupe malien Songoï Blues. Un groupe qui s'est formé à Bamako. Ses membres ayant dû fuir leur maison du nord du pays sous la pression des djihadistes. Voici Worry sur France Inter. Don't worry, you're gonna be happy. Keep working today, that smile will come one day. Don't worry, you're gonna be happy. Keep fighting today, that smile will come one day. Muffins come for free, when you get it free, you will lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Muffins come for free, when you get it free, you will lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Let your hope come from fight and go through your darkness, you'll find your light. Don't worry, you're gonna be happy. Keep it. Songhai Blues sur France Inter. Vous écoutez chacun sa route et tous les jours, un peu après 14h30, pas mal après 14h30, il est 14h37 très précisément, c'est l'un de vous qui nous racontait un moment ailleurs, hors du temps, parallèle. Racontez-nous le répondeur 01 56 40 68 68. Vous pouvez aussi me joindre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Aujourd'hui, Jean-Michel nous raconte la découverte d'une terre où l'on est un peu chez soi, mais pas vraiment non plus. Allons-y, si vous le voulez bien, Abdelataya.
Ce sont mes premières vacances en Guadeloupe, dans les Antilles françaises. C'était en 1984, j'avais 9 ans. Je sais pas si j'avais bien pris conscience qu'on partait aussi loin, en avion. En tout cas, les jours qui ont précédé, je sentais comme une forte excitation en moi, fils unique, avec mes parents, de partir comme ça, aussi loin. Et puis, l'heure est arrivée de prendre l'avion. Je me souviens qu'on était monté dans un 747 de la compagnie Air France. Et puis donc on est arrivé 8 heures plus tard en Guadeloupe. En descendant de l'avion, on voyait cette foule de gens en fait sur la terrasse de l'aéroport. Et moi je savais qu'il y avait mon papy que j'avais encore jamais vu. Et là je vois qu'il fait un signe, lunettes de soleil, cheveux grisonnants sur la tête, et il m'embrasse. Et c'est la première fois donc que je vois mon papy. Et on prend la route pour passer de la Grande Terre en Guadeloupe sur la Basse Terre, puisque mes grands-parents ont leur maison du côté de Saint-Claude, sur les flancs de la Soufrière, sur la Basse Terre. On arrive, et là je vois mes cousins, mes cousines, je fais la rencontre de cette maison, cette grande maison familiale, où je vais passer 6 semaines. Mes parents étaient ouvriers, et avaient énormément économisé pour acheter 3 billets d'avion. Et au total, je me souviens, ils n'avaient pas arrêté de dire que ça avait coûté 15 000 francs pour 3 billets d'avion, aller-retour pour la Guadeloupe. Et donc pendant ces 6 semaines, ça a été comme un rêve. Des arbres fruitiers, il y en avait partout, il y avait un manguier, et c'était notre refuge. En fait, on avait notre cabane dans un manguier. Et mon papy d'ailleurs me disait toujours « Ah, missier là et même mangla » en créole. Ce petit homme aime les mangues. J'étais donc très souvent fourré dans ce manguier. Je suis issu d'un mariage mixte, et j'avais toujours passé mes vacances du côté de ma famille de métropole, mais je n'étais encore jamais en Guadeloupe. Et ces vacances de 84 m'ont fait prendre conscience de cette part de qui je suis, puisque mes parents m'ont jamais élevé en tant que blanc ou noir. J'ai été élevé comme un enfant, normal, sans se poser de questions. En arrivant en Guadeloupe, je me suis rendu compte que, j'avais des origines noires. Et depuis 84, il a été très important pour moi jusqu'à aujourd'hui d'y retourner régulièrement pour retrouver une part de mes racines. Et j'ai la chance de vivre avec mon mari qui aussi adore la Guadeloupe et avec qui, dès qu'on se dit on y va, on y va, on prend nos billets et on va passer du bon temps en Guadeloupe pour bien manger, marcher, respirer. Vivre tout simplement. Alors effectivement, j'y suis allé une seule fois avec mes parents. La fois suivante où j'y suis allé, c'était en 96. Mon papy était encore vivant. Il m'a parlé de la première fois où il a traversé l'Atlantique en bateau pour venir aider à libérer Royan à la Seconde Guerre mondiale. Il m'a transmis des choses dont il n'avait jamais parlé à mon papa. Et c'était la dernière fois que je voyais mon papy. Et c'est marrant, en vous en parlant, je ressens beaucoup d'émotions en fait. Mon papy, je l'ai vu 3 fois dans ma vie, mais ces 3 fois ont été tellement importantes pour moi, et quand il nous a quittés, ça a été une profonde douleur. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'est resté aussi, c'est qu'à chaque fois que je quitte la Guadeloupe, il y a une espèce de déchirement. De voir comme ça s'éloigner cette terre, puisqu'elle est quand même à plus de 7000 km, et tu te dis que tout peut arriver dans la vie, et c'est peut-être la dernière fois que tu la vois, cette île. Je n'y suis pas né, je n'y ai pas grandi, et pourtant c'est un attachement terrible en fait, et profond en moi.
Tombe
un attachement terrible à un lieu. Abdelataya, vous me disiez que vous aviez beaucoup de points communs avec Jean-Michel et notamment le fait d'avoir peu connu votre grand-père, vous aussi.
Oui. D'abord, j'aime beaucoup la voix de ce monsieur, oui. Jean-Michel. Il y a quelque chose de très bouleversant dans sa façon de raconter sa vie. Et il y a plusieurs liens entre lui et moi. Et quand il a dit qu'il n'a vu son grand-père que 3 fois, moi aussi, je n'ai vu mon grand-père, le père de ma mère, le seul grand-père que j'ai jamais connu, que 3 fois. Et je pense, si je suis devenu écrivain, c'est justement pour réparer ce genre de manque. Parce que on est dans le monde pauvre, mais on ne nous donne pas les clés pour aller approfondir nos vies. C'est comme si nous, on n'avait pas le droit d'avoir des arbres dans la vie. Donc on n'avait pas des arbres généalogiques. Comme si on n'avait pas le droit de remonter très loin. C'est comme si, de toute façon, c'est le privilège des puissants et des riches que d'arriver à la littérature, à l'écriture. Et d'aller approfondir leur passé, d'aller approfondir. C'est une fois que je suis réussi à écrire des livres, que tout d'un coup, je me suis tourné vers ma mère, vers mes sœurs, et tout d'un coup, je me posais des questions. Quand j'étais à côté de ma mère, ne me traversait même pas l'esprit. Donc c'est pour vous dire que, d'accord, j'ai subi des violences, d'accord, j'ai subi des viols en tant qu'homosexuel quand j'étais au Maroc, oui. Mais je ne suis pas le seul à avoir souffert, je ne suis pas le seul qu'on a mis à terre. Ma mère, qui vient du bled, qui sacrifiait tellement, tellement de fois, même moi, quand j'étais à côté d'elle, je ne m'autorisais pas à lui poser des questions sur sa vie et sur ce qui s'est passé avant. Maintenant qu'elle est morte, c'est maintenant que je sens comme un vertige, comme un devoir que de revenir dans cette vie du passé et d'amener l'histoire de ce monde et de ce grand-père que je n'ai vu que 3 fois. Mais pourquoi je ne l'ai vu que 3 fois?
Et vous ne le savez pas?
Je ne le sais pas. Je sais, par exemple, que ma mère a eu un premier mari et que ce premier mari avait été pendant le protectorat français et que ce mari avait été envoyé par les Français faire la guerre en Indochine. Et ce mari est mort en Indochine. Donc un homme marocain du bled, au fin fond du Maroc, à côté de Beni Mellal, envoyé de Beni Mellal en Indochine. Il tue des gens pour la France, il meurt en Indochine, il est enterré là-bas. Et ma mère se retrouve avec rien. Et quand la famille de cet homme découvre qu'en fait que la France va leur verser des indemnités, et ils disent « Ah, mais il faut surtout pas partager ça avec cette femme. » Donc ils jettent ma mère et ils prennent l'argent. Je n'ai appris cette histoire que le jour de la mort de ma mère, en 2010. C'est quand même invraisemblable. C'est le comble de l'insensibilité.
C'est vrai qu'on a toujours l'impression, on a toujours l'impression qu'on ne pose pas assez de questions à nos parents, à nos grands-parents, mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a ce poids en plus de, en fait, ça n'existe pas, on ne pose pas ces questions-là parce que ce serait superflu, c'est ça?
C'est superflu, et puis aussi, c'est un truc des pauvres. C'est comme si on leur donne presque des ordres, c'est comme si leur vie ne sont rien, ne sont pas dignes d'être écrites. Il faut même passer, pourquoi ils vont chercher dans le passé? Ils sont rien, puisqu'ils sont rien du tout. C'est pour ça tout à l'heure je parle de l'écriture. Je suis homosexuel, je le dis, je le crie, je ne serai jamais de le crier, pas de problème. Mais dans mes livres, il n'y a pas que moi. Ses sœurs, il y a cette mère, il y a les autres, il y a le rapport au pouvoir marocain, il y a le rapport à la domination de la France, même jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Ce que je veux dire, que l'homosexualité que j'ai ressenti pendant des années comme une malédiction parce qu'elle m'a obligé à devenir un très grand comédien et un très grand manipulateur, et ne m'a pas empêché de regarder ces autres-là et de les amener avec moi. Et comme Jean-Michel, de poser la question de son grand-père, de rapport à son grand-père. C'est-à-dire que ces gens qui étaient beaucoup plus pauvres que moi, je ne l'ai été, ils ont dû faire des sacrifices énormes. Et juste pour nous donner de quoi manger et de nous permettre d'aller à l'école. Si ma mère n'avait pas fait des sacrifices, si ma mère n'avait pas mendié, n'avait pas tendu la main à l'épicier, au marchand de légumes, si ma mère ne m'avait pas donné l'argent pour aller tous les jours de Salé à Rabat pour faire des études à l'université, je ne serais jamais devenu écrivain, je ne serais même pas là France Inter. Et pour parler d'homosexualité. pour parler de cette liberté. Je ne peux pas être le seul.
Bien sûr.
Je ne peux pas être le seul.
Comme Didier Héribon, qui était à votre place, le sociologue, il y a quelques semaines maintenant, et qui disait aussi ça, qui disait aussi que son homosexualité, c'est l'urgence qui pousse à partir. Mais évidemment qu'il n'y a pas que ça. Évidemment que c'est tout autour. C'est, il y a tellement à raconter de ce monde. Du vôtre en l'occurrence, que bien sûr qu'on peut pas le réduire à votre orientation sexuelle et que c'est quelque chose.
Mais c'est pas seulement la réduction. C'est-à-dire qu'il faut aussi parler de la vie des autres,
ouais.
Ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous. Même pour moi, même si j'étais à un moment donné extrêmement ingrat vis-à-vis d'eux. Il faut que je raconte leur vie à eux, leurs sacrifices. Et ce n'est pas parce que ils n'ont pas eu les droits et les lois pour les protéger qu'ils n'ont pas été eux aussi dans la transgression, dans l'émancipation et qu'ils ont manipulé le pouvoir marocain qui ne cessait de les opprimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je parle de ma mère juste comme une femme arabe musulmane de rien du tout, puisque les gens ils pensent qu'une femme arabe musulmane marocaine, elle est seulement soumise. Ma mère était tout sauf soumise. Donc à moi de réparer cette chose-là dans le regard des autres, de ne pas les laisser la soumettre de nouveau à un diktat médiatique d'aujourd'hui qui fait que quand on parle des femmes marocaines ou bien de ma mère, forcément, elles ne sont rien du tout, elles sont juste soumises.
Elles sont caricaturées.
Voilà.
Vous connaissez Marseille, Abdelataya ?
Un petit peu.
Un petit peu, on va y aller en musique si vous le voulez bien. Avec l'artiste P-R2B. C'est la Dolce Vita sur France Inter, chacun sa route.
La vie est trop douce. Ou peut-être n'ai-je jamais appris le bonheur, mais tout à l'heure j'étais regardée dormir, j'ai eu envie de mourir de bonheur. Une chanson douce, qu'on fredonne sans rien faire, je te les donnerai tous, mes mille caresses sans secousse, j'avais tout fait pour me taire, c'est trop tard. Oh bébé, c'est trop tard, je suis cuite. Oh bébé, je suis quitte. Je n'ai jamais aimé personne, ou je n'ai jamais aimé comme ça. C'est un cas d'école, je ne m'en remets pas. La vie est si belle, ça ne se fait pas. Je n'ai jamais aimé personne, ou je n'ai jamais aimé comme ça. Épaule contre épaule, qu'on vienne tout me prendre, c'est une ritournelle qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. Comme un lendemain de cuite, toutes les heures de la veille semblent des idées magiques ou les plus mauvaises nouvelles. Je te dis la vie est belle, belle, belle. Je te trouve tellement belle, belle, belle. Une montée de décibels dans ma tête comme en plein flash. Réalité se dit telle que la sincérité fâche, mais la sincérité tâche. Et les fâches sont des rageux, on a décalé l'horloge. J'ai un si mauvais caractère, mais ça ne fait pas peur du tout. Aussi con que c'est fou. Oh bébé, c'est trop tard, je suis quitte. Oh bébé, c'est trop tard, je suis quitte. Je n'ai jamais aimé personne, ou je n'ai jamais aimé comme ça. C'est un cas d'école, je ne m'en remets pas. La vie est si belle, ça ne se fait pas. Je n'ai jamais aimé personne, ou je n'ai jamais aimé comme ça. Épaule contre épaule, qu'on vienne tout me prendre, c'est une ritournelle qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. Un oiseau s'est installé dans la cage de mes doigts. Je l'ai laissé s'envoler et disparaître de moi. Je voulais te kidnapper, mais je me suis retenue. J'aime trop la liberté quand tu la portes au nu. Si mon père me voyait, il rirait sans doute de moi. Les erreurs sont toujours bonnes quand elles sont du bout des doigts. Me voilà et mes ancêtres s'auréolent dans la nuit. Quand tu m'embrasses, les ailes se déploient à ma folie. J'écrivais des mots d'amour, maintenant qu'après toi je cours. Ces phrases de tous les jours, je n'ai jamais fait la cour, mais j'ai tout dit ce soir-là.
Vous écoutez Chacun sa route sur France Inter et jusqu'à 15h, nous sommes avec le romancier Abdel Attaya qui nous parle du Maroc, qui nous parle de son enfance, qui nous parle aussi de Paris où il habite depuis déjà pas mal d'années maintenant. Est-ce que vous avez toujours l'impression d'être étranger en France ou est-ce que vous vous sentez vraiment pleinement chez vous ici ?
20 ans, ça donne de la légitimité, j'espère.
J'espère aussi, mais je pose quand même la question. Vous vous sentez comment ici aujourd'hui ?
Pour vous répondre à cette question, ce que j'éprouve en ce moment depuis le début, enfin le confinement et tout ça, c'est que j'ai une nostalgie invraisemblable pour les métros et les RER. Ça fait tellement partie de nos
invraisemblable,
vies.
C'est le mot.
Oui, mais moi j'adore les métros et j'ai même la carte de voilà des lignes du métro dans ma tête et j'éprouve une parfois comme ça je passe des minutes et des minutes à rêvasser sur les lignes du
métro. Ah, c'est vrai ?
Oui, oui, j'aime beaucoup.
On peut faire un jeu, je les connais absolument par cœur.
Je prends le challenge.
Challenge. Abdel Attaya, pour terminer cette émission, nous faisons chaque jour le portrait d'une exploratrice. Et cette semaine, on s'intéresse à Anita Conti. Je ne sais pas si vous la connaissez. Hier, on a abordé son enfance et on va la retrouver aujourd'hui à 30 ans. Abdel Attaya, vous êtes, pour les prochaines minutes, Anita Conti. Depuis l'enfance, Anita Conti est passionnée par l'océan. Elle aurait pu faire carrière dans la reliure d'art, où elle était particulièrement douée, mais elle préfère s'investir pleinement pour la protection des océans. Elle part en mission, que ce soit dans les eaux glacées du Nord comme en Afrique équatoriale. En parallèle, elle se marie, en 1927, avec un secrétaire d'ambassade, Marcel Conti, qui lui donne son nom de famille. Riche, de bonne famille, il assure à sa femme de quoi vivre sans rien lui demander en retour. Comme Alexandra Davidné la semaine dernière, Anita Conti est attachée à lui mais ne le voit presque jamais.
Un mari était indispensable pour disposer d'un statut respectable. Mais je dois avouer que je n'avais guère besoin près de moi de sa présence physique.
Un jour, elle lui dira simplement
« Mon cher ami, vous êtes un être délicieux, mais il est préférable de nous séparer. »
Ils resteront pourtant en bons termes et ne divorceront jamais. Mais revenons à sa vie professionnelle. Madame Conti fait sensation dans les années 30 dans une France qui se pose alors peu de questions sur les abysses océaniques et plus généralement sur la santé des océans. Elle va par exemple tenter de sensibiliser aux piètres conditions sanitaires des parcs à huîtres ou être parmi les premières à se pencher sur l'aquaculture. En mai 1939, Anita Conti rejoint le chalutier à vapeur ou doux nom de Viking pour une campagne morutière en mer de Barents et reste à bord pendant une centaine de jours.
Dès que je mets le pied à bord, je voltige. La vie est là.
Là, elle réalise une première grande série de photos, prend des notes, établit des comptes rendus où déjà, rendez-vous compte, elle observe un réchauffement des eaux. Mais soudain, l'année 1939 se voile. La Seconde Guerre mondiale démarre et Anita Conti va être bien utile aux forces alliées. Hors de question pour elle de rester inactive. La voici donc qui monte sur un dragueur de mines à Dunkerque. Un bateau qui, comme son nom l'indique, attrape les mines, les cisaille, les détruit. Évidemment, tous les marins de ces bateaux particuliers risquent leur vie, Anita Conti également. Autour d'elle, plusieurs bateaux volent d'ailleurs en éclats. Elle est la première femme à embarquer sur ces dragueurs, sur la ligne de front. Il faudra d'ailleurs voter un décret spécial pour qu'elle puisse participer à ces opérations. Pendant des mois, elle va sauter d'un navire à l'autre, au large de Dunkerque et de Boulogne, pour déminer le chenal de Dunkerque, pour évacuer des troupes, pour documenter aussi la guerre. Après plusieurs mois intenses, la suite de la guerre sera, pour elle, plus calme. En 1941, elle se glisse à bord d'un chalutier en partance pour Dakar, qui échappe à la surveillance allemande, où elle va étudier la faune aquatique. Elle en profite pour dessiner des cartes des côtes mauritaniennes, trace des repères, des détails, va aussi se rapprocher des pirogues en pirogues de requins géants avec des pêcheurs locaux. Son savoir dépasse les frontières. En 1943, Alger lui confie la mission d'étudier les pêches traditionnelles et leur évolution possible.
Une seule question m'a toujours habité. Faut-il développer l'exploitation des richesses océaniques ? Est-ce vraiment nécessaire ? L'accroissement des populations, l'aveuglement du profit ajouté à nos progrès techniques nous entraînent au pillage des océans.
Une nouvelle fois, elle prend des photos, elle prend des notes, elle dessine. Juste après la guerre, Anita Conti décide de créer une pêcherie expérimentale en Guinée. Son objectif, c'est d'améliorer le régime alimentaire des populations locales. Je vous raconterai la suite demain. Et sachez qu'ensuite, tous les portraits sont en podcast, dans leur intégralité. Pas forcément toujours très très simple à trouver du premier coup, mais si vous cherchez un peu sur franceinter.fr, ils y sont. Ils y sont aussi dans le podcast de Chacun sa route. Abdel Attaya, cette émission s'appelle donc Chacun sa route. Chacun sa route, chacun son chemin, c'est une chanson. Quel message passer à votre voisin ?
Même si je ne le connais pas, je lui envoie beaucoup beaucoup d'amour. Je crois que nous avons tous besoin de sourire pour les uns les autres. Et on se rend compte en ce moment, par exemple, je vis tout seul, je vois pas beaucoup de monde. Rien que le fait de croiser des gens qui habitent le même immeuble que moi me fait un bien fou. Voilà. Même si je le connais pas, même si je ne la connais pas, la voisine, je lui envoie beaucoup d'amour.
J'espère que ça vous a fait du bien de venir ici, alors.
Beaucoup, beaucoup de bien.
Merci à vous. Ça nous a fait du bien aussi, Abdel Attaya. Merci d'avoir passé 7 heures en notre compagnie sur France Inter. Chacun sa route, épisode 37, déjà. Revenez demain, nous recevons l'athlète paralympique Marie Bochet, avec laquelle nous allons skier. Et puis, nous nous intéresserons à l'eau et au manque d'eau, surtout. Merci à Thomas Omaro, Céline Dubois, Louis Cognard, Vera Louderide qui ont préparé cette émission et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Merci aussi à la doc de Radio France qui nous aide pour les portraits que vous entendez à la fin. Et c'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte. Tous les jours, vous nous envoyez un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Juliette aujourd'hui.
C'était il y a une quinzaine d'années. Avec mon ami, on venait de faire une randonnée comme on en faisait chaque année en Bretagne. Et le lendemain, on est tous allés à la fête de Cornouailles. C'est une grande fête bretonne à Quimper. Et sur la scène ouverte, il y avait un petit groupe, le Trio Gagny. Donc trois jeunes musiciens qui mêlaient musique traditionnelle bretonne et musique traditionnelle berbère. Et c'était très doux, très beau. Et on s'est retrouvés à danser sur un andro, sur la chanson pour un épi de blé. Et c'est un souvenir très beau, comme une petite bulle. Du coup, quand j'ai un petit coup de pas trop le moral, et ben je m'écoute Trio Gagny et puis voilà, je rentre dans une bulle de douceur et ça fait du bien.
Je n'avais qu'un épi de blé, je n'avais qu'un épi de blé.
Je n'avais qu'un épi de blé, et je n'avais qu'un épi de blé.
Dans mon jardin, je l'ai planté, mon dira d'Andenne, ma lurada, mon fala dira d'Andenne.
Mon fala dira d'Andenne.
Mais dans mon jardin, je l'ai planté.
Le Maroc et la Bretagne dans une même émission, tous mes amours.